Bonjour. Donc, les dernières recommandations en contraception, en fait, les dernières recommandations complètes de l'ANAES datent de décembre 2004 déjà. Elles ont été réévaluées en partie en ce qui concerne les contraceptifs oraux de troisième génération en octobre 2007. Et ça a été réactualisé en fonction des demandes de remboursement de dernières pilules en 2009-2010. Donc on va reprendre les différentes contraceptions les unes après les autres. Donc dans ces recommandations, globalement, donc la contraception œstroprogestative, c'est une méthode de première intention, efficace dans son utilisation optimale. Et sur les pilules existantes, il n'y a pas de données de préférence en termes d'efficacité. Il était notifié dans le travail de 2004 que chez des patientes en particulier qui ont de l'acné et qui seraient traitées par des traitements tératogènes comme l'isotrétinoïne, il n'est pas recommandé de prescrire le médicament Diane 35 qui n'a pas l'AMM en tant que contraceptif oral et privilégier des pilules qui ont l'AMM dans cette indication. Donc par exemple Tricideste et Triafémie qui ont une double AMM contraception et acné. Donc toutes les pilules œstroprogestatives sont associées à une augmentation du risque de thromboembolique veineux. Et dans la réévaluation, il est vraiment notifié qu'il semble exister un surcroît de risque avec les contraceptifs de troisième avec des progestatifs de troisième génération en comparaison au deuxième. Sachant que selon les progestatifs de troisième génération, il n'y a pas de différence les uns avec les autres. Donc au total, il est recommandé en première intention de prescrire un œstroprogestatif avec un progestatif de deuxième génération et passer aux troisième génération en cas de mauvaise tolérance. Donc dans les dernières réactualisations avec les remboursements des dernières pilules, il avait été donné un avis favorable pour la pilule qui s'appelle Lilou. Donc c'est du levonorgestrel et l'éthinylostradiol 20 gamma, donc c'est une mini-minidrille. Et il a été remboursé des pilules malgré tout avec des progestatifs de troisième génération qui sont des ogestrel éthinylostradiol donc 20 ou 30 ou des obel 20 ou 30 ainsi que la pilule varnoline continue qui est à 30 gamma d'éthinylostradiol et qui correspond au même progestatif. Donc sans que il ait été notifié que ça apportait une réelle amélioration par rapport aux deuxième génération. Les mêmes recommandations notifient qu'il n'y aurait pas de gain significatif d'une prise continue de 28 jours sur 28 concernant l'observance. Bon, ça peut se discuter. Toujours dans les remboursements de nouvelles contraceptions, je l'ai mis là, même si c'est une pilule le lendemain et on va y revenir, et la One est remboursée depuis cette période. Donc les autres œstroprogestatifs en dehors de la voie orale existent sous forme de patch, sous forme d'anneau vaginal. Ils ont démontré leur efficacité et ils peuvent être tout à fait intéressants chez les patientes sujettes à des problèmes d'observance. Cependant, ils sont assez récents et donc les recommandations disent qu'il y aurait un recul insuffisant sur les bénéfices ou risques carcinologiques. Donc en ce qui concerne les risques thromboemboliques veineux, donc avant toute prescription de pilules, il est important de rechercher les facteurs de risque familiaux et personnels. Ces facteurs sont notés, là, la thrombophilie héréditaire ou acquise, l'obésité, âge avancé, une chirurgie avec immobilisation, postpartum, post-avortement du deuxième trimestre. Les varices ne sont pas un problème. Maintenant, si on passe au cancer, donc la pilule œstroprogestative augmenterait potentiellement le risque de cancer du sein et du col, avec une causalité qui reste cependant incertaine. Il est notifié que chez les utilisatrices au long cours de plus de 8 ans, les risques seraient accrus pour les cancers du col, de l'utérus, de col de l'utérus, du système nerveux central et de l'hypophyse. Donc en ce qui concerne le sein, cependant ça permet une découverte précoce chez des patientes suivies, avec aucune différence de mortalité. En revanche, il y a aussi des effets bénéfiques carcinologiques sur le cancer de l'endomètre, de l'ovaire ou du côlon. C'est toujours les mêmes recommandations que je vous ai prises. Donc les contre-indications formelles pour mémoire à la contraception œstroprogestative, les antécédents personnels thromboemboliques, le langor, valvulopathie, fibrillation auriculaire, l'hypertension, les migraines avec aura, les diabètes compliqués et les dyslipidémies qui peuvent poser un problème puisqu'on n'a pas de seuil réellement déterminé pour contre-indiquer cette pilule. En revanche, si on prend isolément l'âge de plus de 35 ans, une obésité isolée, un tabagisme isolé ou des migraines sans aura, ce n'est pas une contre-indication à la pilule, c'est possible, c'est quand on associe ces différents facteurs que ça devient une contre-indication. Donc pilule après 35 ans, non, enfin œstroprogestative. Donc en pratique, lors de la prescription de ce traitement, l'examen gynécologique n'est pas forcément nécessaire avant, il ne doit surtout pas retarder la mise en place de la contraception, ni le bilan cardiovasculaire. Chez une patiente sans antécédent, il sera à faire dans les 3 à 6 mois, s'il est normal à renouveler tous les 5 ans, mais surtout ne pas dire « faites la prise de sang et après on verra ». Il n'y a pas non plus de bilan d'hémostase nécessaire, sauf antécédents familiaux thromboemboliques profonds documentés avant 50 ans. Donc ensuite, la contraception progestative, qui est efficace en emploi courant, mais qui est plutôt un usage de seconde intention. C'est surtout la pilule microprogestative à laquelle on va associer l'implant. Donc l'implanon est remplacé par le Nexplanon, qui est un traitement très efficace, qui est une alternative très intéressante chez les patientes avec un problème d'observance, malgré un certain nombre de problèmes de tolérance, surtout dus à des saignements. Les recommandations rappelaient que les macroprogestatifs étaient un traitement efficace, mais qui était hors AMM, sauf deux norstéroïdes, l'orgamétryl et le primolutnor, qui peuvent être utilisés en seconde intention, mais ça reste de la responsabilité du prescripteur. Donc une petite note sur la contraception progestative injectable, mais qui est très peu utilisée en France. Donc ça rappelait aussi les contre-indications aux progestatifs, donc les accidents thromboemboliques veineux ou artériels. Les antécédents aussi, sauf les microprogestatifs, l'implant et le SIU, au levonorgestrel, dans le cadre d'antécédents éloignés, ce n'est pas des contre-indications, mais les événements en cours, ce sont une contre-indication. Les tumeurs sensibles aux progestatifs, le cancer du sein ou de l'endomètre, hémorragie génitale non expliquée, parce qu'on masquerait en plus les symptômes, et les pathologies hépatiques, tant que les paramètres hépatiques ne sont pas normalisés. Je vous avais rajouté un petit mot sur le Nexplanon. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est l'implant qui a été modifié cette année avec un procédé un petit peu plus facile. On peut moins facilement mettre l'implant en profondeur. Il est radio-opaque. Sinon, le principe est exactement le même. C'est toujours efficace pendant 3 ans. C'est surtout intéressant pour les problèmes d'observance et quand il y a des contre-indications aux œstrogènes, avec une sécurité et efficacité une efficacité prouvées chez les patients de 18 à 40 ans. Donc un petit mot sur la contraception d'urgence, qui se constitue en fait de 3 possibilités, 2 médicales et une par dispositif intra-utérin au cuivre. Donc hormonal, on a le Norlevo, qui est donc la pilule un petit peu plus ancienne, qui ne présente aucune contre-indication, qui est à prendre dans les 3 jours après le rapport et qui est d'autant plus efficace qu'on le prend tôt. Donc 95% d'efficacité à 24 heures et ça chute à 58% à 72 heures. Donc c'est en vente libre, c'est gratuit pour les mineurs, remboursé pour les autres sur prescription. Bien sûr, si c'est une utilisation répétée, c'est qu'il y a besoin d'une autre contraception et c'est relativement peu efficace dans ce sens. Il y a des possibilités de saignement. Donc la pilule plus récente, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est Elawan, qui est délivrée, elle est remboursée uniquement sur prescription, donc pas en vente libre en pharmacie, avec une tolérance identique à Norlevo et qui aurait une efficacité plus longue jusqu'à 5 jours. J'ai fait une petite diapo juste après où on voit les échecs des deux pilules, donc en bleu Elawan Ulipristal et en rouge le levonorgestrel en fonction des jours après le rapport. Et un autre moyen auquel on pense peu et pourtant c'est le plus efficace, c'est le dispositif au cuivre qui peut se mettre après le rapport éventuellement pour entraîner une grossesse jusque dans les 5 jours avec un taux d'échec de 0,1 à 0,2%. Donc c'est très intéressant, il faut y penser, ça permet en plus d'avoir un relais d'une contraception qui va rester efficace. Le problème se pose quand il y a un risque infectieux associé. Donc quand on reste sur le dispositif intra-utérin, c'est une méthode de contraception de première intention qui est très efficace, qui n'a aucun risque cardiovasculaire ni cancérigène en ce qui concerne le cuivre en tout cas, avec une efficacité pour les dispositifs au cuivre qui est équivalente au système intra-utérin hormonal quand il y a suffisamment de cuivre, donc au moins 250 mm carrés, ce qui est le cas dans tous les dispositifs en vente actuellement. Donc le Mirena est une alternative très intéressante quand il y a des saignements sous dispositif au cuivre, et dans les deux cas, une efficacité de 5 ans, complètement réversible au retrait. Il est de bonne pratique de faire une hystérométrie avant la pose, de le poser en première partie de cycle pour ne pas méconnaître une grossesse. Donc à pondérer, bien sûr, si la patiente n'a aucun rapport ou une autre contraception quand on lui pose le dispositif au cuivre. Donc le risque infectieux suite à la pose est surtout dans les 3 semaines. Cependant, il n'y a aucun risque de stérilité tubaire démontré, y compris chez la patiente nullipare. Donc c'est tout à fait possible de mettre un dispositif intra-utérin à une patiente nullipare, sous réserve d'avoir vérifié qu'il n'y a pas une infection à chlamydia localement. Donc à partir du moment où on prend ces mesures, c'est pas un problème avec information de la patiente. Il n'a pas été démontré qu'il était efficace de donner une antibioprophylaxie avant la pose. Pareil, le risque de grossesse extra-utérine sous dispositif intra-utérin est très faible, donc ce n'est pas une contre-indication. Et en gros, c'est un moyen de contraception qui n'est pas assez utilisé, hein, puisque efficace dans la mesure où il va être dans une efficacité optimale, contrairement aux prises orales qui sont sujettes à oubli. Les recommandations parlaient aussi des méthodes barrières, donc le préservatif. La seule méthode, que ce soit le préservatif féminin ou masculin, à être efficace et sur les grossesses et sur la transmission des IST. Moins efficace que les autres méthodes dont on a parlé, quand il est utilisé de manière optimale. Il notait que les préservatifs au latex étaient un peu plus solides et il y avait moins de ruptures et de glissements que le polyuréthane, donc à utiliser de préférence en dehors d'allergie. Les autres méthodes intéressantes discutées dans ces recommandations sont la méthode MAMA, qui est l'allaitement exclusif en postpartum, qui ne fonctionne que sous des critères stricts, c'est-à-dire un allaitement exclusif pendant 6 mois, avec au moins 6 tétés par jour, espacé de moins de 4 heures et de tétés de moins 10 minutes. Donc rapidement, c'est plus forcément possible, mais quand on est encore dans ces clous, c'est une méthode qui est efficace, presque comme la pilule œstroprogestative. En revanche, pour les autres méthodes, en dehors de celles qu'on a déjà décrites, il est dit qu'il y a un fort risque d'échec et qu'elles ne sont pas recommandées. Hein. Diaphragme, éponge, auto-observation, c'est des choses à ne pas utiliser. Donc au total, chez une femme à risque cardiovasculaire, la contraception à utiliser en première intention est un dispositif intra-utérin au cuivre, en dehors des valvulopathies, valvuloplasties, pour des risques de SLER. Donc ça, après, les recommandations diffèrent un peu en fonction des personnes qui en parlent. En ce qui concerne le diabète, le dispositif intra-utérin est aussi recommandé. Les œstroprogestatifs sont possibles si le diabète n'est pas compliqué, et les progestatifs sont possibles si le diabète est compliqué, tout en surveillant l'évolution de la glycémie. En cas d'obésité, il n'y a aucune contre-indication sur ce simple critère. Mais attention au risque d'échec hein, chez des patientes en surpoids pour les contraceptions orales ou transdermiques ou par implant. Hein, par implant, on recommanderait pour des traitements qui sont normalement efficaces pendant 3 ans. On s'adapte au poids et quand le poids est supérieur à l'IMC est supérieur à 25, on va mettre 2 ans et demi. Quand c'est supérieur à 28, on va mettre 2 ans. Et puis après, quand l'obésité est importante, il faudra prévenir la patiente que l'efficacité est peut-être moindre. Chez les patientes qui ont un cancer du sein, quand il s'agit d'un antécédent personnel, c'est une contre-indication formelle aux œstroprogestatifs et aux progestatifs d'ailleurs, et au dispositif intra-utérin qui est hormonal. Donc il faudra dans ces cas-là leur proposer un dispositif intra-utérin au cuivre. Sur des antécédents familiaux, il n'y a pas de contre-indication en dehors des cas particuliers de mutation BRCA1 ou 2, où là il faudra être prudent. Pour le postpartum, chez les patientes qui n'allaitent pas, il est possible de débuter une pilule œstroprogestative au bout de 3 semaines, le temps d'attendre que les paramètres de la coagulation reviennent à la normale. Pour le dispositif intra-utérin, certains pays le mettent tout de suite après l'accouchement, dans les 48 heures. C'est une possibilité, on le fait peu. Sinon, il faut attendre au moins 4 semaines. Hein. Entre les deux, le risque d'expulsion est vraiment trop important. Et il est possible de donner des progestatifs immédiatement après l'accouchement. Si l'allaitement est exclusif, on a vu qu'on pouvait utiliser la méthode MAMA, qui est une contraception efficace si on respecte à la lettre pendant 6 mois. Une minute, j'ai fini, hein, presque. Donc, chez l'adolescent, toutes les méthodes sont possibles. On essaiera d'associer pilules et préservatifs pour le risque d'IST associé. Le dispositif intra-utérin est possible. Le SIU n'est pas vraiment recommandé parce qu'il est un peu plus gros et plus difficile à insérer. Il faudra bien les informer sur les méthodes de rattrapage. Et chez l'adolescent, l'entretien doit être confidentiel. Il n'est pas obligé d'en parler aux parents. Après 35 ans, pas d'âge seuil, mais attention au cumul de facteurs de risque. Après 45 ans, les pilules œstroprogestatives n'est plutôt pas conseillé. Et on préférera le dispositif intra-utérin et les progestatifs. Donc en conclusion, on a quand même un choix de plus en plus important qui permet de s'adapter aux patientes. Quelle que soit la méthode qu'on propose, il va surtout falloir bien expliquer aux patientes pour essayer d'éviter les échecs. Expliquer la contraception et quoi faire en cas d'oubli, c'est vraiment important. Du coup, la diapositive a sauté. Pour ce qui concerne les progestatifs de troisième génération, les recommandations se basent sur des études rétrospectives. Donc on attend des études prospectives qui peut-être modifieront nos recommandations. Mais pour l'instant, on en est là. Je vous remercie.
Qui a été présenté tout à fait intéressant dans la mesure où on voit bien la plupart des moyens sont mis sur un même plan et donc c'est à la patiente de choisir grâce à l'aide qu'on peut apporter. J'avais juste, avant de passer la parole, une question. Il y a plus de 12 000 IVG, je dirais c'est la suite en termes de présentation concernant des adolescentes. Vous avez évoqué ces éléments, ce rappel sur la confidentialité. J'avais une question, ou plutôt une confirmation, sur le fait de la non-nécessité d'un examen gynécologique d'emblée avec ces jeunes filles. On est bien d'accord?
Oui, bien sûr. Et surtout, on essaye de ne pas les faire fuir. Donc, il faut les mettre en confiance. Au début, sauf si elles se plaignent vraiment quelque chose, il n'y a vraiment pas besoin de les examiner tout de suite. On peut retarder l'examen
Et profiter, s'il y a une demande dans la consultation, de mettre tout de suite en place une contraception sans attendre, parce que malheureusement, de temps en temps, il y a des grossesses qui sont liées à cette situation.
Donc pareil, pour la contraception œstroprogestative, il n'est pas nécessaire d'attendre les règles pour la débuter. Hein, là, il y a une méthode Quick Start qui dit qu'on peut la commencer à n'importe quel moment, mais sous réserve de se protéger pendant 7 jours, puisque la pilule va être efficace au bout de 7 jours. C'est quand même bien de le répéter parce qu'on en entend régulièrement des patients qui disent bah oui j'ai attendu les règles et puis elles sont jamais venues. Hein.
Plus une petite précision, demander si Elawan était juste utilisé en contraceptif du lendemain ou aussi en contraceptif.
Juste en contraceptif du lendemain.
Uniquement en contraceptif du lendemain. Oui.
C'est les mêmes indications que Norlevo, ouais. Avec une efficacité meilleure sur le 4e et 5e jour.
D'accord, je vous remercie. Voilà.
Donc bonjour, moi je suis le docteur Franz Blampin. Je suis PH dans le service de gynécologie et je suis responsable du centre d'IVG du CHU de Bordeaux. Donc on m'a demandé de vous parler un petit peu des IVG médicamenteuses. Alors l'IVG médicamenteuse, elle est autorisée en France depuis 88. La nouvelle loi de 2001 a permis la réalisation des IVG médicamenteuses par des médecins qui vont avoir une convention signée avec un centre, soit hospitalier, soit privé, qui réalise des IVG. Mais on a pu mettre sa loi en application que fin 2004, puisqu'il a fallu attendre les décrets. Donc en gros, en France, il y a un taux d'IVG qui reste stable, hein, qui pose en effet, malgré qu'on est un des pays où il y a le plus de contraception, en sachant que le taux d'IVG est stable, alors que le nombre de grossesses non désirées diminue par la mise en route d'une contraception. En fait, le taux d'IVG reste stable actuellement parce que quand il y a une grossesse, il y a plus d'interruptions volontaires de grossesse et les patientes ne gardent pas la grossesse. C'est pour ça que le taux d'IVG reste stable. 9 sur 10 IVG ont lieu à l'hôpital dans les méthodes médicamenteuses et donc 1 sur 10 est en cabinet médical. Il y a une augmentation croissante de la part des IVG médicamenteuses puisque, en gros, actuellement, ça correspond à 46% de réalisation par médicament d'une IVG depuis 2006. La loi aussi, en décembre 2007, a permis d'ouvrir au centre de planification la possibilité de réaliser des IVG médicamenteuses, mais en gros, l'application de cette loi va être subordonnée au bon vouloir du Conseil général. Et donc, il n'y a que 3 régions, hein, surtout en Ile-de-France, qui ont réussi à signer la convention avec le Conseil général. C'est Paris, Hauts-de-Seine et Seine-Saint-Denis. Et sur la Gironde, a priori, ça ne sera pas actuellement. Alors, mince. Alors, actuellement, sur les données de 2008, il y a 1068 conventions qui ont été signées avec, dans 60% des cas, des gynécologues et 40% par des médecins généralistes. Et en gros, c'est qu'un tiers des établissements qui ont signé des conventions avec des médecins. Parce que c'est vrai qu'il y a une demande importante du médecin qui va faire signer des conventions, il y a une charge de travail, et certaines régions n'ont signé aucune convention, puisque les centres arrivaient à régler, à prendre en charge toutes les patientes qui étaient en demande d'IVG médicamenteuse. Donc certaines régions en ont signé beaucoup plus pour justement proposer à ces femmes ce choix. En Aquitaine, on est au sixième rang du taux d'IVG en France en 2008, ayant en gros 8000 ou 9000 IVG par an sur l'Aquitaine, sur 31 établissements. Il y a environ 4500 IVG en Gironde sur 11 établissements. Et le CHU de Bordeaux fait en gros 1600 IVG plus 1200 d'IVG en ville par les signatures de convention. Donc en gros, on en fait 2/3 de la Gironde. Donc en 2008, on avait signé 26 conventions avec le CHU. Actuellement, on est à 31, je me suis trompée, c'est pour ça que j'ai corrigé hier, dont deux généralistes qui ont signé cette année, après une formation. Alors l'IVG médicamenteuse, pour qui? Alors sur le plan médical, les contre-indications sont peu nombreuses. C'est les contre-indications aux médicaments, la mifépristone qui est la mifégine, c'est l'allergie. C'est les insuffisances surrénaliennes puisque ça bloque les récepteurs glucocorticoïdes, l'asthme sévère et la porphyrie. Et pour la prostaglandine, pour le misoprostol, en fait, c'est que l'allergie et des antécédents cardiaques sévères. Alors évidemment, on ne va pas faire des IVG médicamenteuses chez une femme qui a des risques d'hémorragie, qui a un dispositif intra-utérin en place et qui a un fibrome volumineux puisqu'il y a plus de risques pour le risque hémorragique. On ne fera pas d'IVG médicamenteuse non plus pour une femme qui a une dénutrition, une insuffisance rénale, une insuffisance hépatique et qui a une aménorrhée de plus de 63 jours. Et si la grossesse, évidemment, n'est pas confirmée, et si vous avez une suspicion de grossesse extra-utérine, puisqu'évidemment, la méthode médicamenteuse ne va pas traiter la grossesse extra-utérine et peut justement faire le diagnostic tardivement. Et après, on ne fait pas de méthode médicamenteuse quand il y a des désordres psychologiques, puisqu'elle se fait sur 2 jours, et donc il faut être sûr que la patiente puisse revenir. Alors pour qui, sur le plan psychologique, il faut que ça soit la femme qui ait choisi cette méthode, et il faudra donner une information aussi impartiale et complète que possible. Il faudra lui dire les avantages. Il n'y a pas de chirurgie, pas d'anesthésie, il y a plus d'intimité, plus de respect de la pudeur, puisqu'elle va saigner elle-même dans son coin. Par contre, sur les inconvénients, elle risque d'avoir des douleurs, des saignements qui peuvent durer. Les douleurs, ça dure 3 jours, les saignements, ça peut durer jusqu'à 10 jours. Ça peut être douloureux, mais évidemment, on donne des traitements. Il ne faut pas qu'elle souffre. Maintenant, on n'a plus le droit de faire souffrir les femmes. Et en fait, on lui donne sa responsabilité, puisque c'est elle qui va avaler les médicaments. Et un des problèmes psychologiques, c'est qu'elle peut voir de temps en temps le sac qui s'expulse, et ça peut un peu traumatiser les femmes. Alors, pour qui? En ville, on peut faire une IVG médicamenteuse jusqu'à 7 semaines d'aménorrhée. Donc il faut qu'elle prenne les médicaments le jour de ces 7 semaines d'aménorrhée. Il faut que la patiente soit à moins d'une heure de l'hôpital ou de la clinique avec qui le médecin a signé la convention. Il faut qu'elle est capable qu'elle peut se gérer, qu'elle ait bien compris qu'elle pouvait expulser à la maison, qu'elle ait des toilettes convenables et faciles d'accès. Qu'elle peut garder en fait contre le secret ou alors avec la famille, qu'il n'y ait pas de problème. Il ne faut pas qu'elle ait la garde de ses enfants. Il faut qu'elle puisse avoir une tierce personne qui soit là le jour de l'expulsion, à ce moment-là, et qu'elle puisse nous appeler rapidement. Après, à l'hôpital, l'avantage, c'est qu'on peut faire des IVG médicamenteuses jusqu'à 9 semaines d'aménorrhée. On peut de temps en temps proposer aux femmes de venir à l'hôpital si les termes sont limites, si elles ont des douleurs de règles. Alors, c'est pas parce que des patientes ont des dysménorrhées que forcément elles vont avoir plus de douleurs, donc ça n'a pas été démontré. si elle a une pathologie qui va plutôt nécessiter une surveillance, qu'elle préfère elle-même d'être surveillée, d'être encadrée par l'équipe médicale, si elle habite à plus d'une heure. Et l'avantage aussi de le faire à l'hôpital, c'est que ben, y a pas d'avance financière. Elles ne payent que la part de la mutuelle des 20%, alors qu'en ville, elles vont devoir payer un forfait hein, qui est de 191,74 €. Et il n'y a pas toujours le tiers payant, donc la femme est obligée de payer ses 180 €. Alors en même temps, il y a une différence entre la population qui va faire une IVG médicamenteuse en ville et à l'hôpital. Ça a été un sujet de thèse. Souvent, les femmes plus âgées le font en ville. C'est souvent des femmes multipares qui ont déjà eu des grossesses, alors qu'à l'hôpital, on a plutôt les femmes jeunes, les mineures et les nulligestes. Alors le protocole, il est identique que ça soit en ville ou à l'hôpital. Il y a des recommandations de l'AMM et même de l'EMEA, c'est la société, l'Agence européenne d'évaluation des médicaments, qui a confirmé le protocole, puisqu'il y a différents protocoles utilisés en France, mais pour l'instant, c'est celui-là qu'il faut prendre. Avant 49 jours, c'est 3 comprimés de mifépristone, de mifégine, suivi 36 à 48 heures après de 2 comprimés de gymeso, hein, normalement c'est du misoprostol, par voie orale. Les recommandations, on n'a pas le droit d'utiliser le misoprostol par voie vaginale alors qu'on sait qu'il est plus efficace, mais comme il y a eu 4 décès de septicémie en fait compte aux États-Unis, on n'utilise pas cette voie. Elle a permis, on peut faire des IVG donc médicamenteuses jusqu'à 63 jours, donc qu'à l'hôpital, avec soit ou 1 ou 3 comprimés de mifépristone, suivi 48 heures après de 1 mg de Gémeprost. C'est une autre prostaglandine, en fait, compte. C'était une sorte de suppositoire vaginal. Ça coûte très cher, ça doit être gardé au frigidaire, et ça entraîne des douleurs atroces, donc personne n'utilise le protocole recommandé par l'EMEA. L'EMEA a levé la contre-indication pour les femmes de plus de 35 ans et qui fumaient, puisque actuellement, avec les nouvelles prostaglandines, le misoprostol, il n'y a eu aucune complication cardiovasculaire. Enfin, ils ont autorisé l'utilisation d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, puisqu'il n'y a aucune interaction avec les anti-inflammatoires et les prostaglandines qu'on utilise pour la méthode médicamenteuse, et on peut enfin gérer la douleur en préventif. Et après, ils considèrent que la consultation de contrôle après une IVG pour la méthode médicamenteuse ne doit pas être trop précoce, surtout si on fait une échographie, puisqu'après, on peut toujours avoir des suspicions de rétention partielle, et des fois, il y a des actes chirurgicaux qui sont inutiles. Alors, au niveau de l'hôpital, comment ça se passe? Elles prennent 3 comprimés de mifégine en consultation, et puis elles repartent chez elles, puis elles sont réhospitalisées 48 heures après, pendant une hospitalisation de 3 heures en moyenne, où là on leur donne le misoprostol pour provoquer la fausse couche. Hein, l'avantage qu'à l'hôpital on peut utiliser du Cytotec, c'est l'autre molécule, mais qui n'a pas l'AMM, alors qu'en ville on est obligé d'utiliser le Gymiso qui coûte 10 fois plus cher. Donc, on fait à l'hôpital, grâce au réseau qu'on a créé, des IVG de 7-9 semaines, mais pas du tout avec le protocole recommandé. Et on est 4 centres en France à le faire, et on donne, en fait, compte le même protocole que les protocoles inférieurs à 7 semaines d'aménorrhée, mais à la place de donner 2 comprimés de misoprostol, on en donne 4 d'un coup, avec un traitement antalgique un peu plus important pour éviter les douleurs, mais il n'y a pas plus de complications, ni de douleurs, ni de saignements. Alors en ville, eh ben, par contre, elles sont obligées de venir, normalement, actuellement, dans les recommandations, au cabinet médical pour prendre la mifépristone, puis 48 heures après, revenir au cabinet pour prendre le misoprostol. Par contre, la patiente avale le misoprostol et repart chez vous. Et en fait, quand elle fait l'expulsion à domicile, chez elle, le seul problème, c'est que les contractions peuvent arriver dans les 15 à 30 minutes. Et si elle habite loin, il y a des saignements pendant le trajet. Donc c'est vrai qu'il y a la loi, elle n'a pas été modifiée ni le décret, mais en gros dans le centre, je me suis aperçue que 50% des médecins donnaient le misoprostol lors de la prise de mifépristone et la patiente le prenait 48 heures après que le médecin ait appelé, comme ça au moins il n'y a pas de risque de saignement. Par contre, au moment de la prise de misoprostol, c'est important que la patiente soit avec une personne de référence pour qu'elle puisse l'encadrer en cas de douleur. Et donc le forfait est de 180,74 €, il ne peut pas être augmenté et c'est remboursé à 70%. Alors après, pour le contrôle de l'efficacité, eh ben, quand on les revoit 14 à 21 jours après, on les interroge, on fait un examen gynécologique, on leur demande si elles ont vu les saignements et l'expulsion, si elles ont plus de signes de grossesse. Par contre, évidemment, l'interrogatoire et l'examen clinique n'est pas une certitude sur l'efficacité. Et là, dans les recommandations, en fait, compte, c'est au bon vouloir des médecins. Soit on fait des dosages, en fait, compte, de bêta-HCG quantitatif entre 6 et 14 jours après, qui, si vous en avez déjà fait un avant, évidemment, qui permet de voir la chute de plus de 80%, qui vous donne une certitude d'efficacité de la méthode dans 99,5%. Sinon, vous pouvez faire une échographie pelvienne qui va vérifier, évidemment, l'expulsion du sac et vérifier que l'endomètre est fin et qu'il n'y a pas de problème particulier. Donc, c'est au choix du médecin. Le seul avantage, c'est que le bêta-HCG coûte pas cher, hein, coûte moins cher que la réalisation d'une échographie. Il a chuté, elle se plaint de rien, bah ça a marché, vous n'êtes pas obligé de faire une échographie. Vous avez une chute qui n'est pas aussi bonne, qui n'a pas chuté de 80%, à ce moment-là, on peut demander une échographie pour vérifier qu'il n'y ait pas une rétention ou un échec. Et s'il a vraiment très augmenté, évidemment, c'est une grossesse évolutive. Alors le déroulement, normalement, lors de la première visite, hein, même quand on est en ville ou conventionné, c'est le médecin qui s'occupe de la consultation. Elle demande l'IVG et à ce moment-là, vous allez définir le choix de la méthode avec elle. On va déterminer l'âge de la grossesse. Alors le dosage quantitatif d'HCG ne permet en rien de déterminer l'âge de la grossesse. Le seul qui peut permet de déterminer, de vérifier que la grossesse est bien intra-utérine, c'est l'échographie. On fait le groupe sanguin pour être sûr qu'elle n'est pas rhésus négatif pour faire les injections de Rofilac. On vérifie l'absence de contre-indication, on informe la patiente des avantages et des inconvénients des différentes méthodes et on lui propose l'entretien social qui maintenant pour les majeurs n'est plus une obligation mais on le propose systématiquement. Hein. Alors en ville il est proposé dans 99% des cas et réalisé que dans 7% des cas alors qu'à l'hôpital il est réalisé dans 67% des cas puisqu'on a besoin, c'est plus un entretien d'écoute psychologique à ce moment-là. Par contre il reste obligatoire évidemment pour une mineure qui souhaite faire une IVG médicamenteuse, il n'y a aucune contre-indication de le faire soit en ville à l'hôpital si on est mineur, par contre elle doit avoir cet entretien social. Donc la patiente, elle a eu 7 jours de réflexion qui sont obligatoires et le premier certificat, le premier médecin qui a vu lors de la première visite, ça peut n'importe... Le médecin n'est pas forcément celui qui va faire la méthode médicamenteuse, ça peut être un généraliste ou un spécialiste qui a vu une patiente en demande d'IVG et l'adresse à un autre médecin qui a signé la convention et donc ce certificat est important de le faire initialement parce que des fois c'est pas toujours facile pour la méthode médicamenteuse. En gros, il faut les voir avant 6 semaines d'aménorrhée pour pouvoir faire la méthode médicamenteuse. Lors de la deuxième visite, elle confirme qu'elle veut faire l'IVG médicamenteuse et on lui donne les 3 comprimés de mifégine qu'elle ne doit pas vomir évidemment dans les 3 quarts d'heure voire 1 heure, sinon on est obligé de les renouveler. On vérifie qu'on a toutes les dispositions légales, les examens et normalement on devrait refaire un dosage d'HCG quantitatif plasmatique pour pouvoir faire la surveillance, mais en pratique souvent c'est rarement fait, on le fait quelques jours auparavant. La troisième visite, elle revient 36 heures après, soit avec une hospitalisation, si elle a choisi l'hôpital, soit en ville. Et on peut de temps en temps redonner une deuxième dose du misoprostol si vraiment elles n'ont pas expulsé 3 heures après, mais on n'augmente pas le taux de réussite. On donne des gamma-globulines si elles sont rhésus négatifs du Rofilac à faire dans les 72 heures. Et elles sortent avec une contraception, évidemment, un dosage d'HCG ou d'échographie pour la surveillance à faire dans les 10 jours et on la revoit. Et on la revoit et on vérifie en fonction de ça si la méthode a réussi ou si elle tolère bien la contraception. Alors les taux de succès d'IVG médicamenteuse, c'est aux alentours de 95%. Il y a des échecs qui vont nécessiter une chirurgie en gros dans 5% des cas, avec une grossesse évolutive dans 1% des cas qui va nécessiter de faire une IVG chirurgicale. On ne peut pas garder la grossesse, même si le risque est faible. Dans la mesure où elle a fait une IVG médicamenteuse, elle doit continuer le processus. On peut avoir des grossesses arrêtées ou des retentions partielles, en gros, dans 3% des cas. Et une hémorragie, souvent, qui arrive à distance, hein, 48 heures ou 10 jours après, même avec une efficacité de la méthode dans 2% des cas. La mortalité est quasi nulle. En France, il n'y en a eu aucun. Les risques d'infection sont 5 ou 10 fois moins importants qu'avec le risque chirurgical. Et on peut être amené à faire une transfusion dans 0,1% des cas. Alors, quel que soit le taux d'échec est identique qu'on le fasse en ville ou à l'hôpital, et identique selon le terme inférieur à 7 semaines et 7 semaines d'aménorrhée. Et il n'y a pas de problème particulier, comme vous voyez dans notre centre. Après la contraception en post-IVG, évidemment, faut la mettre, puisque la majorité des femmes vont ovuler aux 22 jours. Hein, donc c'est et on leur demande justement d'éviter des rapports dans les 10 premiers jours pour éviter des infections puisque le col est ouvert. Alors on peut mettre n'importe quelle contraception, hein, comme elle vous a dit, il n'y a pas de contre-indication, on peut mettre une contraception hormonale dès le jour de la prise du misoprostol, des préservatifs, des spermicides, des patchs, de l'anneau, l'implant, et par contre le dispositif intra-utérin ou système intra-utérin peut être posé souvent à distance, hein, après évidemment la consultation de contrôle pour vérifier la vacuité, ou alors après un mois de contraception estroprogestative pour permettre de savoir à quel moment vous allez poser le dispositif intra-utérin. Donc en conclusion, la méthode médicamenteuse, c'est une pratique précoce. Ça supprime les risques liés à l'anesthésie et à la chirurgie. On diminue le risque d'infection et de séquelles tubaires, hein, de 0,5% par rapport à 5% en cas de chirurgie. Ça préserve le col, la cavité utérine. Et l'efficacité avant 7 semaines est équivalente à une chirurgie. Donc on ne fera pas de chirurgie avant 7 semaines d'aménorrhée pour éviter d'avoir 5% d'échec. Et l'efficacité est identique entre 7 et 9 semaines. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Une question, vous parliez de la formation pour ceux qui souhaitaient participer, effectivement, et entre autres des généralistes, ça peut concerner certains généralistes, et en particulier des jeunes généralistes qui sont là. La formation est de quelle nature ?
Alors la formation actuellement qu'on a mis en place depuis 3 ans, c'est un diplôme universitaire de régulation des naissances avec 20 heures de cours sur l'IVG et une trentaine d'heures de contraception pour justement déjà connaître tout sur l'IVG, la contraception, parce qu'on ne peut pas faire une IVG sans parler de contraception. Et après, il y a un stage pratique, en fait, compte dans le centre pour la méthode médicamenteuse. Alors, dans d'autres régions, et on va s'y mettre, parce que le problème, c'est que je suis toute seule pour m'occuper du réseau et je ne peux pas faire la formation en même temps. J'essaierai l'année prochaine, en 2011-2012, de faire des formations médicales continues sur un jour ou deux jours pour pouvoir donner une information particulière sur l'IVG pour après faire un stage pratique de 2-3 jours dans le centre. Alors, c'est vrai qu'un médecin généraliste peut, par cette formation, signer une convention avec nous, hein, donc on en a eu 2, on est content, et donc on aimerait justement augmenter le nombre de conventions, mais après c'est du travail supplémentaire, donc là on est en train de demander un financement pour créer un réseau, avoir un financement pour faire de la formation médicale continue, voilà.
Merci.
Oui, il y a des formations à Paris, hein, par le Révo, hein, l'Île-de-France a un réseau en fait, avec un financement qui s'appelle le Révo, et ils font des formations évidemment sur un jour ou un jour et demi où ils parlent que de l'IVG. En effet, hein, cette formation est tout à fait, on accepte évidemment de signer des conventions, mais s'il y a eu une formation auparavant, d'accord. Non, les 7 jours de réflexion sont toujours depuis la loi de 2001 et même depuis 75, les 7 jours que même si la méthode médicamenteuse risque d'être dépassée. C'est pour ça qu'on en fait compte le centre a fait les 7-9 pour justement être dans les clous grâce au réseau, puisque dans ces cas-là, nous, on envoie plutôt les petites inférieures à 7, celles qui le souhaitent en ville, et quand elles sont limites et que le risque, le délai doit être dépassé, dans ces cas-là, on les prend pour les 7-9. Voilà.
Est-ce que vous voyez des jeunes filles très jeunes, à partir de quel âge vous pratiquez des IVG médicamenteuses ?
Alors ça, c'est la question. On a très peu, en fait, il y a très peu de littérature. Je crois que c'est 5% des mineurs choisissent une méthode médicamenteuse. Dans notre centre, on doit en avoir 7% hein, de mineurs qui choisissent la méthode médicamenteuse. Le problème des mineurs, c'est que souvent, elles arrivent plutôt aux alentours de 9 à 10 semaines d'aménorrhée. Donc, on ne peut pas leur proposer. Mais justement, c'est une préoccupation parce que l'ensemble de l'équipe, c'est très hétérogène, en fait. On ne sait pas si on ne propose pas la méthode médicamenteuse à une mineure parce qu'on a peur. En fait, compte, sur le plan soignant, sur le plan du personnel. Donc, c'est un sujet de thèse, justement, d'une interne de médecine générale qu'on va demander un petit peu dans l'Aquitaine, savoir la réflexion au niveau des médecins, au niveau des conseillères, qu'est-ce qu'elles disent pour une mineure. Parce qu'en gros, une mineure où les parents sont au courant, il est tout à fait possible, elles choisissent souvent la méthode médicamenteuse parce qu'elles sont encadrées. Une mineure qui le fait sans l'autorisation des parents, c'est vrai que c'est très difficile parce qu'elles saignent énormément, quoi. Dire, elles peuvent saigner pendant 2-3 jours. Et ben, donc, si les parents se rendent compte de quelque chose, c'est vrai qu'on peut les mettre en situation. Mais moi, j'ai pas d'état d'âme. C'est-à-dire que si elles le souhaitent, hein, je leur propose. Mais c'est leur choix. Hein. Il faut que la méthode médicamenteuse reste un choix, quel que soit l'âge, hein, on va dire. Hein. Donc, mais c'est vrai que c'est un problème. Il y a beaucoup de centres qui refusent de faire des méthodes médicamenteuses chez des mineurs.
Et quel est votre point de vue sur l'administration d'Elawan dans notre pratique. Est-ce que vous pensez que il y aura beaucoup d'échecs? Vous le voyez comment ce...
Alors, la prescription d'une contraception d'urgence est nécessaire dès que vous prescrivez une contraception de première intention. Je pense que nous, dès que je prescris une contraception estroprogestative, quel que soit le patch, l'anneau ou la pilule, ou un microprogestatif, je prescris d'emblée la contraception d'urgence pour qu'elle ait une boîte. On se rend compte que, 4 à 5% seulement utilisent une contraception d'urgence parce qu'elles ne pensent pas à chaque fois de la prendre et elles pensent que ça va passer outre et que ça marchera. Donc je pense qu'Elawan n'a pas forcément l'indication de le prescrire d'emblée. Sauf si vous les voyez entre 2 et 3 jours, comme l'Elawan est beaucoup plus efficace, il faut donner l'Elawan et pas Norlevo. Le Norlevo est vraiment dans les 2-48 heures. Après, je pense qu'en effet, au bout de 2-3 jours, limite, il vaut mieux prescrire l'Elawan. Après, c'est une question, si elles l'ont, le Norlevo, elles le prendront dans les 24 heures. Maintenant, on sait que Norlevo marche très bien dans les 24 heures. Vous diminuez le risque d'échec en 95% et après 2-3 jours, c'est 85%. Donc, je veux dire, c'est pas d'utilisation, en fait, compte. La contraception d'urgence est très peu utilisée. Plus utilisée chez les jeunes, déjà, que les plus de 20 ans. Et en même temps, on se donne une fausse image, elle l'utilise pas non plus de façon permanente, quoi. Et il y a des pharmacies qui refusent de leur donner parce qu'elles l'ont déjà pris 2 fois, elles disent attention. Alors, en effet, si vous donnez que de la contraception d'urgence, en efficacité, c'est moins efficace qu'une contraception. Mais une mineure, souvent, elle a quoi? Elle a 8 rapports par an, je dirais, en moyenne. Donc, je veux dire, en même temps, ça pourrait, en plus des préservatifs, je veux dire, vous n'êtes pas obligé de mettre une contraception si elle a peu de rapports, quoi. Je veux dire, c'est pas... Mais ça ne va pas diminuer le taux d'IVG, je pense, hein.
Bonjour. Donc, effectivement, on va changer de registre. Maintenant, je vais parler de femmes beaucoup plus âgées. Donc, la prise en charge de la déminéralisation osseuse, de l'ostéoporose chez les dames, cette fois-ci ménopausées. Donc, il n'est plus question de contraception. D'abord, un petit rappel sur ce qu'est l'ostéoporose. La définition de l'ostéoporose, c'est une maladie qui touche tout le squelette. Ça ne concerne pas qu'une seule pièce osseuse quand il y a une ostéoporose. C'est caractérisé par 2 choses. D'abord, la diminution de la masse osseuse. Ça, en pratique clinique, on sait la mesurer grâce à l'ostéodensitométrie. Mais il y a aussi un autre critère qui est la détérioration de la microarchitecture du tissu osseux. Et ça, en clinique, nous n'avons pas d'examen pour dépister ce type d'altération. Et il suffit que l'un de ces 2 paramètres soit altéré pour qu'on augmente le risque de fracture. Ce qui peut expliquer parfois chez certaines dames qui ont une ostéodensitométrie normale, vous constatez que pourtant elles fracturent pour des traumatismes de faible énergie. C'est très probablement parce qu'elles ont une altération de la microarchitecture du tissu osseux. Donc il faut savoir que l'ostéoporose est la plus fréquente des ostéopathies fragilisantes, mais son diagnostic nécessite d'éliminer d'autres causes de déminéralisation osseuse, en particulier métaboliques et malignes. Donc on va discuter pour vous montrer comment. Ça, c'est juste une diapositive pour vous montrer ce qu'est la microarchitecture du tissu osseux. Donc ici, vous voyez, le tissu osseux est normal, les travées sont épaisses, nombreuses. Ici, à côté, vous voyez, les travées osseuses se sont raréfiées, même il y a parfois une perte de connexion entre les travées osseuses. Donc c'est ce que je vous expliquais. Malheureusement, quand il y a une altération de la microarchitecture du tissu osseux, à ce jour, nous n'avons pas d'examen complémentaire pour le dépister. Alors, ceci pour vous montrer, parce qu'en fait, vous allez vous dire, bon, l'ostéoporose, ça casse, et bien on répare. Ce qui nous a un petit peu inquiété, c'est que nous avons, alors c'est une étude récente qui date de 2009, nous avons remarqué, que, là je vous ai montré donc pour les personnes de moins de 75 ans, ici la courbe des femmes, ici la courbe des hommes. La courbe bleue, c'est la population générale au fur et à mesure du temps, au bout de 20 ans. Ici, c'est la fracture du col du fémur. Eh bien, vous pouvez voir que lorsqu'il y a un événement fracturaire, que ce soit le fémur ou les vertèbres, en fait, on constate qu'il y a une diminution de la durée, de l'espérance de vie pour les années suivantes. Donc ça augmente le taux de mortalité. Donc l'épidémiologie des fractures, ça va concerner 40% des femmes après la ménopause, donc ce n'est vraiment pas négligeable, et 50% des femmes de plus de 75 ans. En fait, globalement, parmi 100 femmes qui arrivent à la ménopause, 18 présenteront une fracture de l'extrémité supérieure du fémur, 16 une fracture vertébrale, 16 une fracture du poignet, et 39... Au total, en fait, 39,7, soit quasiment 40%, effectivement, présenteront une fracture ostéoporotique. Globalement, on estime que cela va concerner 3 millions de Françaises. Bon, un petit cas clinique. Madame D, âgée de 54 ans, vient vous voir au cabinet médical. Elle est ménopausée depuis un an. Elle ne souhaite pas prendre de traitement hormonal substitutif parce qu'elle craint vraiment le cancer du sein. Globalement, quelle va être votre démarche diagnostique afin de savoir si elle est à risque de présenter une fracture? Est-ce qu'il faut faire une mesure préventive? Alors déjà, bien à l'interrogatoire, il va falloir tenter d'identifier les facteurs de risque d'ostéoporose et de fracture. Quels sont-ils? Eh bien déjà, la ménopause précoce. Sur le plan génétique aussi, il y a des facteurs ratios. Les africaines, globalement, on estime que chez les personnes d'origine africaine, l'ostéoporose ne semble pas exister. Par contre, donc les sujets caucasiens et surtout asiatiques ont plus de risques de faire des fractures. Sur le plan alimentaire, les personnes qui ont une alimentation dépourvue de calcium. Alors à l'heure actuelle, il y a un régime qui est très à la mode. Le régime Dr Ducamp apparemment est très délétère pour l'os. J'en ai parlé avec notre diététicienne. Le morphotype aussi, les femmes menues qui ont un IMC inférieur à 19. Le fait d'être sédentaire. La corticothérapie qui est prescrite à la posologie de plus de 7,5 mg par jour pendant plus de 3 mois. Il y a également les maladies endocriniennes. Alors quelles sont-elles? L'hypercorticisme, l'hyperthyroïdie, l'hyperparathyroïdie. Bien sûr, l'alcoolisme, le tabagisme. Les rhumatismes inflammatoires. En fait, les sujets qui ont une polyarthrite rhumatoïde ont un vrai facteur de risque de développer une ostéoporose et ce n'est pas seulement induit par la corticothérapie. Et enfin, si vous avez des patientes qui ont des troubles de l'équilibre, elles sont bien sûr plus à risque de faire des fractures, puisqu'on a plutôt tendance à se fracturer une pièce osseuse lorsqu'on chute. Alors, vous interrogez la patiente et elle vous raconte que sa maman a présenté une fracture du col du fémur à l'âge de 73 ans. Elle mesure 1m65 pour un poids de 49 kg. Donc là, vous contrôlez la taille, parce que si jamais vous constatez qu'elle a perdu au moins 3 cm par rapport à la taille annoncée, ça vaut le coup de faire des radiographies du rachis dorsal et lombaire, puisqu'on sait à l'heure actuelle que 2/3 des fractures vertébrales passent inaperçues. Pourquoi? Parce qu'en fait, une dame qui vient vous voir au cabinet et qui vous dit qu'elle a mal au dos, très souvent on se dit « bon, c'est de l'arthrose, ça va passer ». Il ne faut pas hésiter, lorsque vous constatez une diminution de taille d'au moins 3 cm, donc il ne faut pas hésiter à réaliser des radiographies. Elle est très soucieuse de sa silhouette, elle ne désire pas s'arrêter de fumer. D'ailleurs, elle fume depuis l'âge de 24 ans, environ 3/4 du paquet par jour. Donc vous allez vous poser la question, est-ce que je peux lui prescrire une ostéodensitométrie pour rechercher si elle a une déminéralisation osseuse? Et si je lui prescris l'ostéodensitométrie, est-ce que cette dernière sera remboursée? Donc sur cette diapositive, je vous ai mis les critères qui permettent la prise en charge du remboursement de l'ostéodensitométrie, à savoir que l'examen coûte 40 € et pas plus. Donc si jamais le cabinet le facture 80 €, eh bien elle ne pourra avoir l'examen ne sera remboursé malheureusement que 40 €. Il y a des zones qui ne sont jamais concernées par les fractures ostéoporotiques. C'est le crâne, le rachis cervical, les doigts et les orteils. Ces sites-là ne sont jamais d'origine ostéoporotique. Donc une fracture, si jamais on vous dit que la patiente a une fracture au niveau du rachis cervical, la première chose à faire, c'est éliminer une métastase vertébrale. Donc chez la femme ménopausée, globalement, l'examen est remboursé si vous avez constaté la survenue d'une fracture pour un traumatisme de faible énergie, s'il y a un antécédent de fracture du col du fémur chez un parent du premier degré, si son IMC est inférieur à 19, si elle a présenté une ménopause avant l'âge de 40 ans, et également si vous retrouvez à l'interrogatoire la notion d'une prise de corticoïdes pendant plus de 3 mois. Donc l'ostéodensitométrie, c'est un examen qui n'est pas traumatisant, peu irradiant, c'est 20 fois moins irradiant qu'une radio des poumons, et 2 mesures sont réalisées, la mesure au niveau du rachis lombaire qui reflète l'os trabéculaire. C'est souvent d'ailleurs ce site-là qui est déminéralisé en premier. Et ensuite, il y a une deuxième mesure, la mesure au niveau du col du fémur, qui reflète, on va dire, le tissu osseux d'origine corticale. Celui-ci a tendance à se déminéraliser après l'âge de 70 ans. Car en fait, ce qu'on constate, c'est que dans l'histoire d'une femme qui présente une ostéoporose et des fractures, la première fracture, qui est on va dire le signal d'alarme pour une ostéoporose, c'est la fracture du poignet. Donc ça, c'est globalement jusqu'à l'âge de 60 ans. Entre 60 et 70 ans, c'est plutôt l'âge de la fracture vertébrale. Après 70 ans, c'est plutôt l'âge de la fracture du col du fémur. Donc voici les résultats de l'ostéodensitométrie chez notre patiente. Elle présente effectivement une importante déminéralisation osseuse au niveau du rachis lombaire, à moins 2,8 déviations standard, et au niveau du col du fémur, à moins 1,5 déviations standard. On estime, au niveau de l'ostéodensitométrie, on estime qu'à titre personnel, il y a une augmentation du risque de fracture ostéoporotique dès que le T-score est inférieur à moins 2,5 déviations standard sur l'une des deux zones. Donc oui, notre patiente répond à la définition d'une importante déminéralisation osseuse. Donc ce tableau, juste pour un petit rappel, pour vous montrer qu'en fait l'ostéodensitométrie nous aide dans la prise en charge de la déminéralisation osseuse, mais que l'âge est important parce que, comme on peut le voir là, hop, à T-score égal, quand le T-score est à moins 2,5 déviations standard, une dame âgée de 50 à 55 ans présente un risque de 11,3% de fracture dans les 10 années à venir, alors qu'une dame de 80 à 85 ans à T-score égal, son risque de faire une fracture dans les 10 années à venir est de quasiment 26%. Donc, sur l'ostéodensitométrie, vous constatez qu'il y a une déminéralisation osseuse et vous savez qu'elle a des facteurs de risque de fracture ostéoporotique. Est-ce que vous allez instaurer un traitement d'emblée ? Eh bien non, en fait, parce que le résultat de l'ostéodensitométrie ne nous permet pas de conclure qu'il y a une ostéoporose. Il y a plusieurs pathologies qui sont à l'origine d'une déminéralisation osseuse. Donc avant de prendre en charge la déminéralisation osseuse, il faut surtout éliminer toutes les causes d'ostéoporose secondaire. Alors voici le bilan biologique que je vous propose. Globalement, c'est le bilan biologique, semble-t-il, serait le plus rentable sur le plan économique pour dépister toutes ces pathologies. Donc il y a la numération formule sanguine plaquette, afin de s'assurer qu'il n'y ait pas d'anémie, parce que quand il y a une anémie, aussitôt on pense à une pathologie cancéreuse sous-jacente. Un bilan phosphocalcique sanguin, on peut oublier l'urinaire. L'électrophorèse des protéines sériques, surtout dans le but de vérifier qu'il n'y ait pas de gammapathie monoclonale. Dans ce cas-là, il faudrait pousser le bilan afin d'éliminer un myélome. La 25-hydroxyvitamine D, j'ai oublié la vitamine D, et la parathormone. Alors je sais que par exemple à Paris, ils font d'emblée la parathormone. À Toulouse, ils ne font pas la parathormone, ils font plutôt la calciurie des 24 heures. Donc le but de ce bilan sanguin, c'est d'éliminer des pathologies telles que l'ostéomalacie. L'ostéomalacie qui est donc la carence en vitamine D. Là, pour vous montrer, l'ostéomalacie, en fait, c'est le tissu osseux qui devient un petit peu mou par défaut de minéralisation osseuse. Donc les vertèbres que vous voyez ici, biconcaves, c'est tout simplement comme elles sont un peu molles, mais le disque intervertébral est dur, et donc c'est pour ça qu'il y a l'empreinte du disque intervertébral là. Et la fameuse fissure de Loser-Milkman. Donc c'est dommage de passer à côté, parce que ça peut être des dames qui présentent des arthromyalgies, voire même des difficultés pour se déplacer. Or il suffit de donner une supplémentation en vitamine D pour que tout rentre dans l'ordre. Voire pas même, parfois même cela donne des pseudomyopathies. On les voit plutôt dans les institutions. Elles ne peuvent plus marcher. Le myélome, donc, c'est grâce à l'électrophorèse des protéines sériques qu'on élimine le myélome. Donc, comme on peut le voir ici, les lacunes à l'emporte-pièce. Et c'est une dame que nous avions vue pour un bilan de fracture vertébrale. L'hyperparathyroïdie, donc, c'est une hypercalcémie et une augmentation du taux de parathormone. Il faut notamment s'en méfier de l'hyperparathyroïdie quand c'est des dames que vous avez déjà vues pour des calculs rénaux d'origine calcique ou qui parfois aussi ont des chondrocalcinoses. On revient toujours à notre dame de 54 ans. Vous faites le bilan biologique. Ce dernier est normal. Là, vous pouvez conclure qu'elle a une ostéoporose post-ménopausique. Quel traitement vous allez proposer et lequel ? Eh bien déjà, des conseils hygiéno-diététiques. Donc nous avons par exemple mis en place une filière ostéoporose dans le service de rhumatologie Comme ça, elles ont l'occasion de rencontrer une diététicienne qui leur donne des conseils alimentaires pour avoir des apports protéiques et calciques suffisants. Bien sûr, nous, notre rôle, c'est de leur dire si elles fument, d'arrêter de fumer et d'éviter l'excès d'alcool. Chez la femme, on estime que l'excès d'alcool est plus de 2 verres d'alcool par jour. L'exercice physique régulier est également conseillé. Bon, globalement, une dame de plus de 80 ans, on lui conseille une marche de 20 à 30 minutes par jour. On voit avec elle tout ce que l'on peut faire pour prévenir les chutes. Donc, si jamais elles ne voient pas très bien, on les envoie consulter l'ophtalmologiste. S'il y a des troubles de l'équilibre, on les envoie en rééducation fonctionnelle. Quant à la notion de protecteur de hanche, vous en avez peut-être entendu parler. Bon, ceci a complètement été abandonné parce que, déjà, c'est pas très très gracieux de mettre des protecteurs de hanche sous la jupe ou sous le pantalon. Ça a été plus adopté dans les institutions. Le traitement entre 50 et 60 ans, s'il n'y a pas eu de fracture, est-ce qu'on va pouvoir le prescrire et surtout est-ce qu'il sera remboursé dans ce cadre-là? Donc, nous avons recherché les facteurs de risque chez Notre-Dame. Effectivement, elle avait des facteurs de risque, c'est pour ça que l'ostéodensitométrie a été remboursée. Elle avait un T-score inférieur à moins 2,5 déviations standard et des facteurs de risque, donc oui, son traitement sera remboursé. Et là, vous avez le choix entre le traitement hormonal substitutif, le raloxifène, les bisoissonates ou le ranélate de strontium. Chez une dame de 60 à 80 ans, globalement, il faut retenir que c'est à peu près le même principe. S'il y a eu une fracture, ne vous encombrez pas l'esprit avec ce diagramme. Il faut savoir que s'il y a eu une fracture pour un traumatisme de faible énergie, globalement, le traitement sera toujours remboursé. Alors, le remodelage osseux, où c'est qu'agissent les traitements? Ici, vous avez la cellule qui détruit l'os, l'ostéoclaste. Ici, vous avez les cellules qui fabriquent de l'os, les ostéoblastes. Le traitement hormonal substitutif, les CERM, les bisphosphonates, inhibent l'ostéoclaste. Le ranélate de strontium inhibe à la fois l'ostéoclaste et favorise la stimulation des ostéoblastes. Le teriparatide est le plus puissant formateur osseux. Globalement, donc les CERM, ce sont les médicaments qui s'appellent Evista ou Optruma. Ils ne servent à rien au-delà de 70 ans, car ils n'ont démontré leur prévention que pour les fractures vertébrales. L'intérêt qu'on lui trouve, c'est qu'il a un avantage sur le plan du sein, puisqu'il diminue le risque de cancer du sein hormonodépendant. Le deuxième avantage, c'est l'horaire de prise qui est libre. Donc, elles le prennent le matin, le midi ou le soir. Avant le repas, cela n'a aucune importance. Les bisphosphonates, ceux-là sont très nombreux, la famille est très très nombreuse et très grande. Donc il y a le risédronate qui s'appelle Lactonel, qui peut se prendre une fois par semaine ou en deux prises par mois. L'alendronate qui s'appelle le Fosamax, Fosavance ou Adrovance, qui se prend une fois par semaine. Donc le traitement par voie orale est un traitement efficace qui prévient à la fois les fractures du col du fémur et les fractures vertébrales. Le souci, c'est que la prise est très contraignante puisqu'il faut le prendre le matin à jeun avec un grand verre d'eau. Donc il y a la forme par voie intraveineuse qui règle un petit peu ce problème puisque c'est une perfusion par an pendant 4 ans. On essaye d'aller vite. L'effet secondaire dont vous avez peut-être entendu parler est l'ostéonécrose de la mâchoire. Donc à l'heure actuelle, nous avons tendance à proposer aux patientes, avant de débuter le traitement par bisphosphonate, on leur propose d'aller voir le chirurgien dentiste pour faire un bilan bucco-dentaire correct, puisque si elles sont traitées par bisphosphonate, ceci augmente le risque d'avoir une ostéonécrose de la mâchoire au décours d'une extraction dentaire ou de la pose d'un implant. Le ranélate de strontium, c'est le Protelos. Celui-ci, c'est un sachet qui se prend le soir 2 heures après le repas. Il a démontré sa très bonne tolérance chez la femme de plus de 80 ans. Le teriparatide, celui-ci est réservé à l'ostéoporose sévère, c'est-à-dire au moins avec 2 fractures vertébrales. La durée de la cure est de 18 mois. Alors l'inconvénient, c'est qu'il coûte très cher et que c'est une sous-cutanée par jour, mais sur le plan pratique, les dames qui bénéficient de ce traitement en ressentent très souvent une très nette amélioration avec une nette diminution des rachialgies. Et enfin, un traitement qui aurait déjà dû être commercialisé au mois de janvier 2011, mais son accès sur le marché a été repoussé du fait de l'affaire du Mediator, c'est le Prolia. Le Prolia qui va être la première biothérapie dans l'ostéoporose. Donc je ne vais pas vous faire de cours de physiopathologie, c'était pour vous informer de sa future commercialisation. Son avantage, c'est que c'est une injection sous-cutanée tous les 6 mois. Et il aura l'AMM pour 5 ans. Vous allez me demander aussi quand on arrête le traitement. Alors globalement, voici les durées de chacun des traitements. Le teriparatide, 18 mois, sachant qu'il a l'AMM pour 24 mois, mais il n'est remboursé que 18 mois. Les bisphosphonates, on les prescrit pour 4 à 5 ans. Au-delà, nous risquons on se pose la question à l'heure actuelle du phénomène d'os gelé, puisque nous avons constaté l'apparition de fractures atypiques de la diaphyse du fémur. Donc on va rarement au-delà de 7 ans pour la prescription. Les SERM, on les prescrit 4 ans, mais il y a eu des études de tolérance sur 8 ans. Le ranellate de strontium, au départ, avait l'AMM pour 5 ans. À ce jour, il y a une phase d'extension qui va être publiée pour 10 ans. La supplémentation en vitamine D, parce que quasiment toutes les femmes ménopausées sont déficitaires en vitamine D. Donc voici le schéma thérapeutique qui est proposé, qui a été publié dans le New England en 2007. Si le taux de 25-hydroxyvitamine D est inférieur à 10 nanogrammes par millilitre, on propose de faire une supplémentation par une ampoule de 100 000 unités de vitamine D tous les 15 jours pendant 2 mois. Si le taux est compris entre 11 et 20, on propose une ampoule de 100 000 unités tous les 15 jours pendant 1 mois et demi. Et si le taux est compris entre 21 et 30, une ampoule tous les 15 jours pendant 1 mois. Et très souvent, il faudra poursuivre la supplémentation par vitamine D tous les 2 à 3 mois. Donc ceci, c'est la dernière diapositive pour vous démontrer que les déterminants de la fracture ostéoporotique sont quand même multiples. La prise en charge médicamenteuse seule ne suffit pas. Il faut vraiment, déjà chez les adolescents et les jeunes femmes, faire attention à leur bonne hygiène de vie, à leur bonne alimentation. Et au fur et à mesure qu'elles vieillissent, il faut également prévenir tous les facteurs de risque de chute, tous les troubles de l'équilibre. Je vous remercie.
Ce que vous avez présenté, c'est issu des recommandations de l'AHS de 2006. Simplement, j'ai entendu qu'il y avait, dans le bilan à faire, il y avait des différences, j'entendais, à Toulouse, à Marseille, à Paris. Qu'en est-il par rapport à ça?
Alors, en fait, le bilan, il n'y a pas de... tout le monde n'est pas d'accord, pardon. Tout le monde n'est pas d'accord sur le bilan à faire très exactement pour dépister toutes ces maladies. Donc il y a eu des études socio-économiques, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Australie, pour déterminer quel était le bilan le plus rentable, on va dire, pour le dépistage. Donc globalement, nous sur Bordeaux, on a tendance à faire le bilan que je vous ai montré. Le bilan urinaire, nous aurions tendance à le faire dans un second temps, puisqu'il n'est pas facile de récupérer les urines des 24 heures, surtout chez les dames âgées. Donc il n'y a pas de recommandation bien stricte et bien précise dans l'HAS pour le bilan biologique.
D'accord.
Pour le traitement de l'ostéoporose, parce que j'ai parlé de cure, effectivement, les bisphosphonates, ils ont un effet rémanent dans le temps. Donc ceux-là, on peut se dire, alors ceux qui sont pris par voie orale, on ne sait pas combien de temps en fait ils sont rémanents dans le temps. Donc nous, on cède du CTX sérique. Quand on arrête les bisphosphonates, on fait un CTX sérique pendant que les bisphosphonates sont pris. Et à l'arrêt, on les fait tous les 6 mois, globalement, et on voit s'ils ont tendance à réascensionner. Parce que c'est un traitement, on sait que même quand on l'arrête, il reste efficace. Alors surtout avec la Clasta. La Clasta, c'est vraiment donc c'est la bisphosphonate qui se fait par voie intraveineuse. Et celui-ci est vraiment rémanent, on pense même pendant 10 ans. Après, la meilleure séquence thérapeutique, quand on peut la faire, qui a démontré le meilleur gain en minéralisation osseuse, c'est la séquence Forsteo, mais ce traitement-là est réservé aux dames qui ont déjà fracturé au moins 2 fois. Et comme celui-ci n'a pas d'effet rémanent, aussitôt on prend le relais avec un traitement anti-résorbeur de type Aclasta. En fait, ceci a plus été décrit avec l'Aclasta. Et en fait, si ça a été plus décrit avec l'Aclasta, c'est qu'on utilise des doses énormes en cancérologie. On pense que l'association chimiothérapie, imprégnation très importante de zoledronate, Ça, effectivement, ça, ça a démontré une réelle augmentation du risque de nécrose de la mâchoire. À visée anti-ostéoporotique, du moment que l'état bucco-dentaire était déjà bon au départ, globalement, je pense que le risque est mineur, mais les chirurgiens dentistes refusent de faire les soins de type extraction dentaire ou pose d'implant s'ils savent que la dame est traitée par bisphosphonate.
Chez les femmes qui n'ont pas d'ostéoporose avérée, c'est-à-dire les femmes inopposées, qu'est-ce qu'on leur propose ?
Moi, je leur propose juste des mesures hygiéno-diététiques et puis souvent une petite supplémentation en vitamine D, car elles sont souvent en fait déficitaires en vitamine D. Donc, ça coûte pas cher, c'est 1,80€ l'ampoule. De plus, il y a pas mal d'études qui sont sorties qui ont démontré que les dames qui avaient un taux de vitamine D correct avaient tendance à faire moins de cancers du sein, du côlon, faisaient moins de maladies auto-immunes. Donc, on ne sait pas comment expliquer cela. Donc c'est pour ça que des gens leur proposent une bonne hygiène de vie et une supplémentation en vitamine D.
Il y avait une autre question.
Oui, la calcémie, c'est la calcémie corrigée ?
Alors, si jamais on a une calcémie totale qui nous paraît pas normale, on fait une calcémie corrigée. Mais on la fait pas systématiquement, on fait pas la calcémie corrigée d'emblée.
Et si on trouve une calcémie normale, on prescrit quand même un traitement à base de calcium et vitamine D en
Alors moi, je ne prescris quasiment jamais de comprimé de calcium, parce que ça les constipe, ça les ballonne, et elles finissent par tout arrêter. Donc je privilégie plutôt d'optimiser l'alimentation en apport en produits calciques, enfin à base de produits laitiers. Moi je trouve, en tant que femme, quand on a des bouffées de chaleur, et on le propose...
Il y a un cadre qui est...
Oui, il y a un cadre, on les envoie voir le gynécologue pour qu'elles en discutent, mais... Ah, ça c'est pas ma partie là.
Madame Mathieu, vous... Pour l'instant, les recommandations sur le traitement hormonal de la ménopause, ce sont les troubles du climatère. Ce n'est pas l'indication prévention de l'ostéoporose, mais ça peut évoluer parce qu'il y a pas mal de discussions autour de l'ostéoporose. Le traitement, les recommandations, on dit de faire 1 an de traitement hormonal de la ménopause, faire une fenêtre thérapeutique, si les bouffées de chaleur réapparaissent, redonner, et il est recommandé actuellement de ne pas dépasser 5 ans de traitement hormonal de la ménopause. C'est les recommandations actuelles. En utilisant œstrogène naturel, en privilégiant la voie percutanée qui donnera moins d'accidents thromboemboliques, qui perturbe moins les facteurs de coagulation, et de la progestérone naturelle. Alors les séquences peuvent être œstrogène et 12 jours de progestérone naturelle, ou bien combiner œstrogène et progestérone naturelle, suivant que la patiente veut un traitement avec ou sans règles. Si la patiente n'a pas d'utérus, on peut tout à fait donner simplement des œstrogènes, donc à d'antécédents d'hystérectomie. Alors évidemment, il faut respecter les contre-indications au traitement hormonal de la ménopause, mais sinon c'est tout à fait possible. Mais l'AMM du traitement de la ménopause n'est pas la prévention de l'ostéoporose pour l'instant.
Et si j'ai bien vu la recommandation, il y a une seule petite indication qui est quand même... serait très limité, c'est une ostéoporose qui répondrait mal au traitement, mais comme on a vu qu'il y avait quand même une panoplie de traitements, c'est quand même très très limité.
Voilà. Bon. Et en fait, alors par contre, si vous avez une ménopause précoce, c'est-à-dire la ménopause avant 40 ans, il y a une indication de faire un traitement hormonal de la ménopause pour prévenir, bien sûr, le risque ostéoporotique, mais aussi les risques cardiovasculaires liés à la ménopause. Et là, ça ne sera pas limité à 5 ans.
D'accord, bonjour et puis merci. Je suis le docteur Vanessa Conry, je suis praticien hospitalier en chirurgie gynécologique et cancérologique sur l'hôpital Pellegrin. Et je vous remercie parce qu'on a été obligé d'intervertir les communications, je n'étais pas disponible avant. Donc je vais vous parler des nouvelles recommandations. Je me suis permis de mettre entre guillemets les nouvelles recommandations sur les frottis anormales. Pourquoi ? Parce que tout simplement quand on m'a demandé l'exposé, j'ai dit mais c'est pas possible, j'ai pas actualisé mes connaissances, ça va pas du tout. Et en fait j'ai regardé dans tous les sens, il n'y a pas de nouvelles recommandations sur le frottis anormal, à part celle de l'ANAES de 2002. Par contre ce qui change un petit peu, c'est les recommandations de l'HAS, donc, pour lesquelles vous êtes au courant depuis février 2011. Donc on va revoir tout ça un petit peu ensemble. Donc en termes d'épidémiologie, le cancer du col utérin, sur les données de 2008, ça représente donc le 11e rang des cancers chez la femme. C'est encore presque 3000 nouveaux cas par an en 2008. C'est responsable de 1000 décès par an. C'est un cancer qui touche plutôt la femme jeune, avec une incidence qui commence à croître à partir de l'âge de 20 ans et un pic d'incidence vers 40 ans et un pic de mortalité aux alentours de 50 ans. On assiste heureusement à une diminution de l'incidence et de la mortalité en France grâce aux effets du dépistage individuel jusqu'à présent, parce que ça permet un diagnostic précoce des lésions précancéreuses et un traitement, et ça nous a permis de diminuer le taux de lésions invasives. Mais ceci dit, il y a une stagnation, donc avec toujours environ 3004 cancers du col évitables, entre guillemets, par an en France. Alors les facteurs de risque identifiés de cancer du col utérin, vous savez tous que c'est une tumeur solide qui est due à un virus dans plus de 99% des cas. Il y a un rôle donc des papillomavirus oncogènes, notamment du 16 et du 18. 70 à 90% des cancers du col sont liés à l'HPV 16 ou 18. Et les facteurs de risque sont corrélés donc aux facteurs de risque, à l'activité sexuelle et donc aux infections sexuellement transmissibles. Donc c'est l'activité sexuelle précoce, la multiplicité des partenaires. Il y a également l'immunosuppression qui rentre en ligne de compte, le tabagisme et puis d'autres facteurs qui sont corrélés à l'activité sexuelle, qui sont le bas milieu socio-économique et la multiparité. Le mode de contamination par l'HPV, je vous l'ai remis pour parce que ça peut aider dans le discours, parce que quand vous avez les questions des patientes, mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai ça, d'où vient cette affection, est-ce qu'il y a une notion d'infidélité, c'est pas évident de répondre. Donc ça se transmet principalement par rapport sexuel, transmission digitale mais également transmission orale, et on a une réduction du risque de 70% avec un préservatif, mais une réduction qui n'est pas complète du risque. Alors, concernant le dépistage et où on en est à l'heure actuelle, alors le dépistage, donc, c'est la prévention secondaire, contrairement au vaccin, donc, qui est la prévention primaire. Alors, en France, jusqu'à présent, il n'y a pas de dépistage de masse. Il y a juste eu une expérimentation pour faire un dépistage organisé pour quatre régions, Haut-Rhin, Bas-Rhin, Isère et Martinique. Et pour l'instant, on est toujours sur un dépistage individuel avec, in fine, une mauvaise répartition des 6 millions de frottis annuels, puisqu'il va y avoir des patientes qui vont avoir des frottis avec un rythme complètement inadapté, et des rythmes trop souvent. En général, ce sont les patientes qui ont peut-être le moins de facteurs de risque. Et puis, il va y avoir 40% des patientes qui vont échapper aux frottis. Et puis, il va y en avoir 40 à 50% après la ménopause qui vont échapper également au dépistage. Il y a des patientes qui vont avoir un rythme inadéquat des frottis. Et finalement, c'est un tiers des patientes qui ont un cancer du col qui n'ont jamais eu de dépistage. Donc, c'est-à-dire sur les 3000, il y en a 1000 au moins qui sont dus à une absence de dépistage. Le reste est lié à un dépistage insuffisant et c'est rare, c'est moins de 10% des cas de retrouver un cancer du col vraiment évolutif avec un dépistage qui soit correct. Le dépistage est également inégal, puisqu'il y a moins de frottis dans les bas niveaux socio-économiques, moins d'accès aux soins, et moins chez les bénéficiaires de la CMU et les gens qui n'ont pas de couverture mutuelle complémentaire. Dans les pays où il y a eu un dépistage de masse organisé, finalement la mortalité par cancer du col de l'utérus a baissé de 50 à 80%. Alors, on ne va pas, juste pour vous signaler les résultats à l'heure actuelle du dépistage cytologique. Le dépistage individuel en France a permis de diminuer l'incidence quand même des cancers invasifs. Il a augmenté l'incidence des dysplasies cervicales. Et le dépistage organisé, je vous l'ai dit, a quand même vraiment diminué avec une mortalité de moins 40 à moins 76% pour les cancers invasifs. Juste pour vous informer, donc la survie d'une patiente qui est traitée au stade précancéreux, c'est 100% de survie. À partir du moment où il y a un saignement sur un cancer du col utérin, c'est 50% de survie pour les patientes. D'où l'intérêt de vraiment proposer ce dépistage. Alors, pour situer également un petit peu les choses, cette pyramide que j'aime bien, c'est pour vous montrer le nombre de décès par cancer du col par an en France, c'est 1000 décès sur 3000 cas. Et puis, il y a également tout le bas de la pyramide qui sont les lésions que l'on va devoir traiter en gynécologie, c'est-à-dire donc les lésions de haut grade, les HSIL ou les CIN2-3, les lésions de bas grade et puis également les ascus sur les 6 millions de frottis qui sont réalisés par an. Alors, à l'heure actuelle, les recommandations, elles n'ont pas changé, c'est toutes les femmes asymptomatiques de l'âge de 25 ans à l'âge de 65 ans ayant ou ayant eu une activité sexuelle On peut discuter selon les facteurs de risque. Chez les patientes immunodéprimées, on peut, il y a certaines équipes qui proposent de rapprocher le rythme des frottis tous les ans. On peut commencer à faire un dépistage quand les rapports sexuels sont plus précoces. Et on peut poursuivre au-delà de 70 ans chez des patientes en bon état général et s'il y a une activité sexuelle. Le rythme, c'est de faire un premier frottis. S'il est normal, on fait un deuxième frottis à 12 mois pour rattraper les faux négatifs. Et ensuite, c'est un frottis tous les 3 ans. Alors, dans le contexte actuel, l'HAS recommande le dépistage organisé au niveau national. Donc ça, c'est les recommandations de février 2011. Alors, les justifications, c'est que finalement, en France, on a atteint les limites du dépistage individuel basé sur le volontariat. On a atteint les limites du dépistage spontané par frottis tous les 3 ans. Je vous l'ai dit, le taux de couverture stagne. Toutes les patientes ne sont pas dépistées. Il y a beaucoup de disparités en fonction des endroits géographiques et des conditions socio-économiques. On a toujours une stabilité de l'incidence des cancers du col, toujours une stabilité des décès. On n'a pas fait beaucoup de progrès en thérapeutique. Il y a des dépistages complètement inadaptés. Et quand on regarde, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, sur une étude en 2006, sur 500 cas de cancer invasif, pas de dépistage, 24% des cas, frottis irrégulier, 43% des cas, et frottis normal dans les 3 ans précédant le diagnostic, 30% des cas. Alors voilà ce que j'ai retrouvé sur l'HAS, c'est-à-dire que il est proposé donc un dépistage qui continue à s'appuyer sur les acteurs traditionnels, au premier rang duquel donc les gynécologues, les médecins généralistes et les sages-femmes. Cette proposition donc renforce le rôle du médecin traitant qui va coordonner le dépistage pour chacune de ses patientes. Il rappelle le rythme de dépistage avec un dépistage fondé toujours sur le frottis cervico-utérin tous les 3 ans, après 2 frottis normaux à 1 an d'intervalle, pour toutes les patientes de 25 à 65 ans, qu'elles soient vaccinées ou non vaccinées. Et le but, c'est de mettre en place également une démarche d'assurance qualité, des actions complémentaires plus ciblées. Donc on en est à la proposition d'un nouveau rôle de coordination pour le médecin généraliste. À l'heure actuelle, 15% des frottis sont réalisés par les médecins généralistes et 85% sont réalisés par les gynécologues. La qualité des frottis réalisés par les généralistes ou par les médecins généralistes est la même. Cela nécessite d'acquérir la compétence pour réaliser des frottis ou éventuellement d'adresser les patientes vers un laboratoire pour faire le prélèvement. Le but, c'est que le médecin, dans son rôle de coordination, aide à respecter la périodicité des frottis et organise le suivi gynécologique des patientes dans le dossier. Alors, juste un petit mot pour vous rappeler l'histoire naturelle de l'HPV et du cancer du col et pourquoi ce cancer se prête bien au dépistage. C'est un cancer qui est fréquent. Le test de dépistage, le frottis, a une valeur prédictive positive de 99%. Et on a une histoire naturelle de l'infection HPV qui est longue et qui nous permet donc de proposer le dépistage et de traiter les lésions au stade précancéreux. Je vous rappelle qu'on est en prévention secondaire. Le dépistage, il est simple, rapide, efficace et il est peu coûteux. Alors, l'histoire naturelle, eh bien effectivement, je vous l'ai dit, on a une phase précancéreuse correspondant aux dysplasies et aux lésions in situ. On a également la phase préclinique correspondant au cancer micro-invasif. Ça, c'est le moment habituel du dépistage. Et là, on va pouvoir faire des traitements peu mutilants qui respectent la fertilité des femmes. Et on va pouvoir éviter donc la survenue de cancer par rapport au stade incurable où on fait le diagnostic en dehors de tout dépistage et où on a une mortalité inhérente assez importante. Alors, l'histoire naturelle des infections HPV, c'est donc la persistance de l'infection par un HPV oncogène. Et il va y avoir donc au niveau de la zone de jonction, c'est-à-dire la zone la plus fragile entre l'épithélium glandulaire de l'endocol et l'épithélium malpighien de l'exocol, c'est au niveau de cette zone de jonction qu'il va y avoir l'apparition donc de cellules dysplasiques sous l'influence donc du virus. Donc, toute infection ne va pas donner de lésions dysplasiques, puisque vous savez qu'il y a un équilibre entre la persistance de l'infection et la clairance virale. Et donc, sur ce schéma, c'est assez bien représenté, c'est-à-dire que vous avez une infection par l'HPV, une infection transitoire avec l'apparition de coïlocytes au niveau de l'épithélium malpighien, des lésions de dysplasie de type CIN1. Dans la majorité des cas, ces lésions vont régresser, c'est-à-dire que sur le frottis, si on est sur des lésions de bas grade de type CIN1, on va pouvoir inverser. Et on ne va traiter les patientes que s'il y a une persistance des lésions dysplasiques sur plus de 18 à 24 mois. Au-delà, quand il va y avoir une infection plus importante avec des cellules dysplasiques qui vont se situer soit sur les deux tiers de l'épithélium, soit sur toute la hauteur de l'épithélium, les choses régressent beaucoup moins et là on propose directement des traitements. Là on est sur des lésions de haut grade. Et puis, si on laisse évoluer ces lésions de haut grade sans traitement, eh ben, il y a un franchissement de la membrane basale par les cellules dysplasiques et on arrive sur la notion de carcinome infiltrant. Donc ça, c'est la même chose, sauf que je trouvais que les cellules étaient plus jolies. Donc voilà, globalement, 80% des infections sont transitoires et asymptomatiques, 20% vont donner des lésions dysplasiques et 1% vont donner des cancers du col. Par contre, la presque totalité des lésions est liée à l'HPV. Alors en pratique, comment on réalise un frottis cervico-vaginal? Où c'est qu'on prélève? On a déjà vu un petit peu, c'est-à-dire que le cancer naît à la jonction entre l'épithélium malpighien de l'exocol et l'épithélium cylindrique de l'endocol. Donc il faut avoir un prélèvement qui échantillonne l'endocol mais également l'exocol. Et on peut faire, je vais vous montrer, les deux prélèvements avec un même geste quand on utilise une brosse un petit peu spécifique. Donc voilà la zone de jonction, c'est la zone... Entre, donc là vous avez le cul-de-sac vaginal, vous avez donc l'épithélium exocervical malpighien et la zone de jonction avec l'épithélium, donc ici endocervical sur une coupe. Alors on a deux techniques pour faire des frottis. On peut faire donc un frottis avec une spatule d'air qui nous permet donc de prélever les cellules de l'exocol en frottant. Et puis on réalise également un frottis à la brosse de l'endocol et on fait un étalement sur l'âme. Ou alors ce qu'on utilise de plus en plus, c'est le frottis donc en milieu liquide avec ce type de brosse qui nous permet de prélever directement à la fois les cellules de l'exocol et également les cellules de l'endocol. Donc en fait, l'exposition se fait avec un spéculum, on frotte avec ces petites brosses qui sont souples en faisant plusieurs tours et on va déposer ces cellules dans le milieu liquide en agitant sans casser la brosse à l'intérieur et envoyer le prélèvement en pathologie. Donc voilà les deux techniques. Le choix de la technique dépend de votre expérience et du laboratoire. Le prix est le même. La qualité du prélèvement pour les deux méthodes est essentielle et la meilleure technique finalement c'est celle dont vous avez l'habitude. Alors, quelques règles pour le frottis. Il faut essayer de le faire en dehors des règles et d'une infection cervicale qui peut perturber l'analyse. Le prélèvement doit porter sur, je vous l'ai dit, exocol, endocol. Et on doit avoir les deux types de cellules représentées. C'est un critère de qualité et d'exhaustivité. Attention juste à la différence entre le dépistage qui fait appel à l'examen cytologique, le frottis est un examen cytologique, et le diagnostic, c'est-à-dire la réalité des lésions, on aura le résultat que sur une biopsie. Là, il faut faire une colposcopie et des biopsies qui vont nous prélever un fragment de tissu et là, on aura un diagnostic histologique. Alors, l'intérêt de la colposcopie, donc, c'est que ça permet de décrire les lésions, de voir la topographie des lésions et de réaliser des biopsies dirigées. Donc, on fait un examen direct, ensuite on fait un examen avec application d'acide acétique, puis un examen avec application de Lugol. On vérifie la topographie des lésions, on voit si on voit la totalité de la zone de jonction et on peut réaliser des biopsies. Donc voilà un petit peu le principe des biopsies, donc à la pince, après application donc de Lugol et d'acide acétique. Ça c'est ce qu'on fait couramment quand on fait des colposcopies. Il reste 2 minutes, il faut que j'avance. Vous avez une pause après, non? Bon, juste 5 minutes jusqu'à moins le quart. Bon, je me dépêche. D'accord, bon, j'espère. Donc, concernant les recommandations de l'ANAES, donc vous avez la classification Bethesda de 2001. Donc, il faut que l'on ait un prélèvement qui soit satisfaisant pour l'évaluation. Et donc, il faut que le frottis soit interprétable. Il n'est pas interprétable quand vous avez moins de 10% de cellules malpighiennes ou des cellules épithéliales masquées. Alors, voilà la classification que l'on a. On a soit des anomalies des cellules épithéliales. Alors, les lésions de bas grade, lésions malpighiennes intraépithéliales de bas grade, les lésions de haut grade. On peut avoir aussi le type ASC, c'est-à-dire les atypies cellulaires malpighiennes, soit de type indéterminé, ASCUS, soit de haut grade, ne permettant pas d'éliminer une lésion de haut grade, ce sont les ASCH, les carcinomes in situ et les cancers invasifs. Et l'autre type de la classification, c'est les anomalies, l'autre versant, c'est les anomalies des cellules glandulaires, qui sont notées AGC, AIS ou adénocarcinome. Alors concernant la prise en charge d'un frottis anormal, donc ça c'est les recommandations issues de l'ANAES de 2002, quand vous êtes sur des lésions intraépithéliales de bas grade, le risque de CIN 2-3 est inférieur à 5%, il y a deux options. Soit on peut proposer une cytologie de contrôle à 4 à 6 mois, soit on peut proposer directement une colposcopie avec, si elle est satisfaisante, et si elle est satisfaisante mais anormale, des biopsies. Si elle est satisfaisante et normale, une cytologie à 1 an. Si elle n'est pas satisfaisante, une colposcopie après un traitement œstrogénique. Et après, on reprend un petit peu les mêmes données. L'autre option est de contrôler donc à 6 mois. Si c'est positif, on fait une colposcopie et on passe directement sur le diagramme de gauche. Et si c'est négatif, on repropose une cytologie à 6 mois. Puis, si c'est encore négatif, une cytologie à 1 an. Et après, on reprend le rythme de surveillance à 2 ans. Si on est sur un frottis évocateur d'anomalie de haut grade, HSIL, on ne doit pas refaire le frottis, il n'y a pas de surveillance, on doit faire une colposcopie et des biopsies. Et je dirais pratiquement, quel que soit le résultat des biopsies, à partir du moment où on a un frottis évocateur d'anomalie de haut grade, on ira, même si la colposcopie et les biopsies sont rassurantes, même si on trouve que des lésions de bas grade, on ne surveillera pas, on fera une conisation diagnostique pour analyser donc le prélèvement. On retrouve du CIN2-3 dans 90% des cas dans les frottis HSIL et des cancers invasifs dans 1 à 2% des cas. Quand on a des frottis donc ASCASH ou ASCUS, ASCASH, ça veut dire des anomalies des cellules malpighiennes permettant pas d'exclure un haut grade. On retrouve des CIN2-3 dans 30 à 40% des cas, bon 0,1 à 0,2% de cancer. Et dans les frottis ASCUS, ben, c'est beaucoup plus faible, on retrouve des CIN2-3 dans 5 à 10% des cas. Alors, concernant la prise en charge des atypies des cellules malpighiennes, si on est sur un ASCASH, de toute façon, on part directement sur la colposcopie, les biopsies. Et si on est sur un ASCUS, on a 3 possibilités. Soit on fait une colposcopie et des biopsies directement, soit on peut faire une cytologie avec un nouveau frottis à 6 mois. Si c'est positif, on part directement sur la colposcopie et biopsie. Si c'est négatif, on peut proposer une surveillance. Ou alors l'autre option, c'est de faire un test HPV oncogène. Donc il faut savoir que le test HPV oncogène, ça va vous permettre soit de, si c'est négatif, de reprendre, d'éliminer le risque et de reprendre la cytologie à 1 an, puis après la cytologie de routine. Si c'est positif, ça vous impose une colposcopie et des biopsies. On peut faire le test HPV en même temps sur les frottis en milieu liquide, puisque ça, avec le système de prélèvement, ça évite de reconvoquer la patiente par rapport aux frottis que l'on avait avec étalement. C'est un des éléments qui fait que les frottis en phase liquide se sont bien développés du côté pratique. Alors devant un frottis évocateur d'anomalie des cellules glandulaires, là on part directement sur une colposcopie avec également des biopsies, mais également des prélèvements au niveau de l'endocol et éventuellement des prélèvements au niveau de l'endomètre. En fait, il va falloir échantillonner l'ensemble de la filière sur ces anomalies-là. Alors, en résumé, donc, ASCUS, on peut faire colposcopie ou frottis ou test HPV. ASCASH, c'est directement une colposcopie. Les lésions de bas grade LSIL, on peut faire colposcopie ou frottis de contrôle. Les lésions de haut grade HSIL, on part directement sur une colposcopie. Et les anomalies donc des cellules glandulaires, on part directement sur des colposcopies, biopsie de l'endocol, plus ou moins biopsie de l'endomètre. Voilà, et là je vais conclure a priori. Donc, en conclusion, les messages à retenir, c'est qu'on a un rôle central de coordination qui est attendu de la part du médecin généraliste pour, dans le cas du dépistage organisé, sensibiliser les patientes et faire ce dépistage et assurer le suivi gynécologique. Donc le dépistage, la coordination, le suivi du dossier gynécologique. Après, c'est vrai que peut être déléguée la surveillance au médecin traitant de tout ce qui va être frottis avec un rythme normal et des examens qui sont normaux. Les ASCUS avec des HPV oncogènes négatifs et des surveillances et des suivis à 1 an peuvent être également délégués et vous pouvez tout à fait assurer le suivi. Et je pense qu'il y a un rôle quand même du spécialiste en gynécologie qui est d'expliquer, de rassurer. On a des situations qui sont des fois pas très simples, qu'on discute de façon collégiale au niveau des frottis. Et puis, ça permet donc d'affiner le diagnostic grâce à la colposcopie et aux biopsies. Puis, ça permet de proposer également le traitement des lésions précancéreuses, que ce soit laser ou conisation. Voilà, je vous remercie.
Merci. Avant d'envisager quelques questions, on parlait de démarche qualité tout à l'heure. Ce qui doit être notre démarche de qualité, c'est dans nos dossiers qu'on puisse retrouver la date du dernier frottis pour toutes les femmes de 25 ans, la date du dernier frottis, et également disposer dans le dossier des comptes rendus de frottis. Je veux dire que ça, c'est un travail à faire avec nos amis gynécologues, c'est toujours un peu compliqué, mais vous êtes en droit d'exiger cela parce qu'au moins on a des éléments solides. Et après, vous avez vu, il y a trois possibilités. Vous êtes à même de réaliser vous-même vos frottis, ou vous avez un réseau, vous pouvez travailler avec des gynécologues, ou malheureusement, il y a des secteurs où il n'y a pas de gynécologues. Et très clairement, maintenant, dans les nouvelles recommandations, apparaît la possibilité et la logique, d'ailleurs, de faire appel au laboratoire de biologie ou de cytologie pour réaliser ces frottis. Mais on ne peut plus se permettre de laisser des femmes, surtout ce sont les femmes les plus âgées qui, pour lesquelles les médecins généralistes sont en première ligne, on ne peut plus laisser ces femmes sans dépistage. Alors, là je réponds pour avoir, avec certains ici, essayé de travailler sur la mise en place d'un dépistage organisé en Gironde, on n'a pas vraiment avancé. De toute façon, les structures de gestion départementales auront en charge ce dépistage. C'est ce qui est prévu dans les statuts. Après, l'organisation est difficile. Alors, vous voyez, c'est paradoxal. C'est finalement, ça a été montré, c'est le cancer pour lequel on a un test de dépistage le plus fiable. Hein, vous avez vu les taux, quand on parle de l'hémoculte, bon, la mammographie, c'est un petit peu à part. Et paradoxalement, on n'a pas avancé pour des problèmes un petit peu complexes. Mais il y a une volonté, et c'est pour ça que cette mise au point de la chaise est importante, pour développer un dépistage organisé dans tous les départements et d'essayer de mettre le paquet pour les régions et les endroits où il y a des populations qui sont les plus défavorisées. L'enquête qui a été faite en Aquitaine, en Gironde, montrait des disparités considérables selon les secteurs géographiques. Vous avez peut-être vu que depuis deux jours, dans les recommandations sur les vaccinations parues dans le BEH, on considère qu'il y a tout à fait équivalence entre les deux vaccins, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Là, les deux sont exactement au même niveau dans la recommandation parue dans le BEH il y a 48 heures.